time for all mankind to get together with one another. Iron out of problems and iron out of troubles and try to live as brothers. Try to find peace of mind without stepping on one another. And do respect all the women of the world. Just remember that you all had mothers. We got to make this land a better land in the world in which we live. Help each man be a better man with the kindness that we give. I know we can make it. I know that we can. I know darn well we can work it out.
Une voiture a besoin de carburant pour fonctionner. L'humanité, elle, a besoin d'eau pour vivre aussi. L'eau, c'est une essence, c'est le carburant de toute l'humanité. Nous ne pouvons jamais nous en passer. L'eau est un esprit pour moi. L'eau minérale. L'eau gazeuse, mais il n'existe qu'une seule forme d'eau, c'est l'eau.
L'eau.
Bonjour.
Excusez-moi, on voudrait poser quelques questions sur le canal. Est-ce que vous étiez au courant déjà qu'il y avait un canal dans notre lycée?
Non, c'est l'eau de la Durance ou de la Carence?
Ouais, l'eau de la Durance, Durance.
C'est l'eau de la Durance.
La Carence, c'est pas du tout ça.
Non.
Non, je connais pas. Je suis nouvelle ici, ça fait 3 mois que je suis là.
Absolument pas.
Absolument pas.
J'adore.
L'existence du canal, connaissez-vous l'existence du canal en bas?
Oui, sous les dalles.
Est-ce que vous connaissez la raison de l'existence de ce canal?
Ben, je sais pas, mais a priori, ça doit être une bonne raison.
Un petit peu au courant, parce que je l'ai vu, il était fermé. J'ai juste vu qu'il était fermé, quoi, mais j'ai jamais vu
comment
l'eau.
Comment ça, il cachait la vue
ben, en fait,
c'est
du béton,
du béton dessus, je préférerais voir l'eau.
J'aimerais qu'ils enlèvent les dalles de béton.
Connaissez-vous les raisons de leur construction?
Non.
Non, du tout?
Non.
Mais il y a longtemps que...
Ça, on ne sait pas, mais...
Tu blagues ou... Le canal qui est là, en bas?
Ah, moi, je croyais que c'était un canal de...
Mais non,
ah oui, non, mais oui, mais...
Bah oui, c'est le canal de Marseille, non, alors.
L'eau est une source de conflit. Du fait que l'humanité tout entière veut s'octroyer le droit de s'approprier cette richesse vitale, symbole de grandeur, de vie pour l'homme, mais la folie des hommes rend l'eau aussi mortelle que les armes.
Oui, c'est bon.
Ici Thierry Lamarche, en reportage pour LPA News. S'il vous plaît, collaboratrice.
Je vais aller vers le canal, je m'enfonce dans la forêt indésirienne.
C'est un territoire dangereux, hostile, où chaque écureuil peut être un vrai cannibale.
L'eau! Je suis coincé dans la terre. Ah. Ouh. J'ai réussi à me lever de cet entrave.
J'ai fait pousser une troisième jambe avec des mélanges de fesses et de sueur de tari. Donc ici nous avons la vue sur le canal, mais comme on peut le dire, ce canal est caché. On dirait qu'ils veulent cacher des choses, vous voyez, des choses éventuelles qui seraient passées de ce canal sur l'existence même de l'humain. On dirait qu'ils ont une certaine peur de montrer la véritable face de ce canal.
Alors en fait, je vais vous expliquer la nature de ce canal caché. Pourquoi il est caché alors qu'à Pastrana, en réalité, tous les élèves ont enterré les sortes de Jésus, comme toi. Ils les ont jetés dans ce canal et comme ça, il ressort.
Des martyrs, des martyrs.
Oui, des martyrs comme Jésus.
Des martyrs
et
comme
il
Jésus.
Ressort à la vue des personnes et des randonneurs oui. quelconques.
Oui, mais la question,
donc,
c'est
le lycée
que...
Le rejette toute la responsabilité sur le parc Pastré. Okay. Et c'est pour ça que depuis tant d'années, il y a des procès sur le parc Pastré parce qu'on retrouve des centaines de cadavres de sortes de Jésus.
De sorte
de Jésus.
Voilà.
Une sorte de martyr. Ça résoudrait à peu près la question du pourquoi la cacheter, pourquoi enterrer ce canal qui voudrait sûrement un lieu de prédiction pour l'amour, un lieu de prédiction pour les romances tant humaines. Donc nous allons entendre. Je crois que nous allons rester à côté du canal en attendant que quelqu'un nous montre la vérité enfin, quoi, parce que... En tant que Marseillais, je me pose des questions comme tout ma Marseillais. À quand le véritable visage de ce canal? C'était François Lemarche pour LPA News.
L'eau, c'est une source d'inspiration. Depuis la nuit des temps, il y a beaucoup de cultures qui sont basées sur l'eau, de la religion aussi, avec les esprits, les dieux, et c'est tout.
Bah, cette branche-là, elle arrive du palais Longchamp. Mm-hmm. Alors, combien de kilomètres ça fait, j'en sais rien, mais... Ouais, peut-être. Ouais.
Ah, okay. Non, et à Pastrée, il est découvert, on peut le voir.
Et on peut trouver
une dizaine de kilomètres.
Qu'est-ce qu'il évoque pour vous, le canal? La présence de ce canal?
C'est l'eau à Marseille, hein. À l'origine, c'était l'eau à Marseille.
Quand vous voyez le canal, vous avez des sentiments, le passé qui revient.
Moi, mon passé, il n'était pas à Marseille. Ah. Mais ça fait rien. Ça fait rien, c'est le passé des Marseillais.
C'est exactement ça.
Tu parles le canal de où, là?
Le canal en bas du lycée, celui qui est caché.
Je ne connais pas le lycée encore par cœur, c'est pour ça.
Et qu'est-ce que ça évoque en vous?
C'est beau. Quand il y a un canal à Marseille comme ça, moi j'en ai un juste derrière ma maison, un canal. À Marseille, on est privilégié, on a la mer. Pourquoi il faut y aller se baigner dans le canal?
C'est une très bonne question, Jacqueline. Jacqueline, pourriez-vous nous donner la main? Voulez-vous qu'on aille ensemble à un endroit du canal qui vous semble important?
Avec un garçon charmant arménien comme ça, ça ne m'étonnerait pas que je donne la main pour partir.
Allons-y de ce pas.
À Marseille, on est privilégié, on a la mer. Pourquoi il faut y aller se baigner dans le canal?
C'est une très bonne question, Jacqueline.
C'est bon, on y est. Bon, bonjour, voilà, on y est. Alors, on démarre. Alors, c'est dans le cadre d'un projet sur le courant que notre classe aussi enthousiaste que compétente, notre classe de première STAV. Alors, cher auditeur, première STAV, qu'est-ce que c'est? Déjà, même moi, j'hésite à vous dire ce qu'est-ce que c'est parce que j'en sais toujours rien. Donc, heureusement que mon professeur me l'a marqué dessus. Sciences technologiques de l'agronomie et du vivant. On fait un bac STAV, je ne sais toujours pas pourquoi ni ce que c'est. Donc, on continue. Alors, c'est dans le cadre d'un projet sur le courant que notre classe, aussi enthousiaste que compétente, nous nous sommes rendus dans plusieurs milieux. tous différents, dans un cadre joyeux et magique, fort en émotion, car c'est un tout qui fait rien et c'est un rien qui fait notre classe.
Absolument.
Donc, sur ce, je laisse la parole à mon camarade d'esprit, Eric, ici présent, car c'est moi-même en même temps, qui va détailler le projet, qui va illuminer ma parole, assez perplexe. Donc, je laisse la parole à Eric.
Oui, alors, bonjour. En premier lieu, je vais présenter par Pierre-Louis et Alex sur la Sainte-Baume, qui va nous aiguiller sur cette terre de légende, territoire de légende et de mythologie. Donc, Pierre-Louis et Alex, je vous laisse la parole.
Nous allons vous présenter notre séjour à Sainte-Baume, territoire à la frontière des Bouches-du-Rhône et du Var. C'est un lieu mythique lié aux sources d'eau, ancré dans un contexte antique et chrétien. C'est Christian Vaquet qui nous a fait découvrir ce lieu. Il est garde forestier à l'Office national des forêts, passionné par son métier, ainsi que la faune forestière. Il nous a fait partager ses connaissances sur les oiseaux.
Ouais.
D'ailleurs, si tu veux bien lancer le sujet.
Ah mais totalement. Donc je veux bien qu'on écoute Christian, je sais pas quoi, pour imitateur d'oiseaux professionnel.
Ouais. Voilà, ça c'est la hulotte. Et effectivement, tous ces oiseaux font partie de l'équilibre nocturne. Et bon, moi je crois même que j'ai vu une chouette effraie il n'y a pas longtemps. Mais en général ici il y a les chouettes hulottes. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, on y trouve certains rongeurs, on y trouve les fouines, on y trouve des tas d'oiseaux. Et là, on y trouve dans cet arbre, alors, il y a un insecte qui est inféodé à l'IF, qui s'appelle l'Osmoderma eremita, ou le pique-prune. Il est protégé au niveau Natura 2000, il est protégé.
Au cœur de la forêt, constituée principalement de feuillus, il nous a fait découvrir la majestueuse source de Daphné.
Ah, il le dit.
Mais
aussi.
Oui,
ah, ben alors, c'est parti, on lance le sujet sur la légende de Daphné.
Si vous buvez de l'eau de cette source, vous faites un vœu, mais il y a trois règles. Il faut le dire à personne. Il faut le garder en soi et mettre tout en œuvre pour qu'il se réalise, bien sûr. Et puis, voilà, en général, c'est ça. Et donc, il faut le boire avec... être persuadé que c'est bon. Donc il y a un effet placebo incontestable. Mais voilà, donc on l'appelle la source des vœux. Et puis d'abord, il faut écouter pourquoi elle est devenue la source des vœux, donc l'histoire de cette source. De temps en temps, il arrivait que des personnes se promènent dans la forêt, des hommes, et à travers des plages de lumière, aperçoivent comme ça des déesses. Notamment la fille du roi des elfes et des fleuves, qui s'appelait Daphné, qui vivait là, et qui avait pour habitude d'apparaître comme ça dans ces plages de lumière, suivie par une myriade de papillons, comme ça. Et elle venait se baigner là. Parce qu'avant, figurez-vous que là, cette source, c'était en fait une vasque qui avait été sculptée par les sculpteurs de l'Olympe. Et arrivait un petit torrent qui se déversait dedans, puis ça débordait, et ça allait courir comme ça sur des parterres de fleurs, de jacinthes d'eau et tout, et ça partait comme ça dans... Ça allait chanter. Bon, maintenant, c'est beaucoup moindre, mais ça reste quand même un lieu symbolique important. Donc, elle venait, Daphné, et elle se mettait nue. Elle n'avait pas grand-chose à enlever. Hein. Elle se mettait là et elle se baignait. Dès qu'elle entendait que les oiseaux ne chantent plus, hop, elle disparaissait. Dans cette forêt venait aussi le bel Apollon. Alors, le bel Apollon venait dans la journée, comme ça, près des sources, il racontait aux naïades ses périples et tout. Il avait sa harpe, il chantait, il déclamait des poèmes et tout. Donc c'était un grand séducteur, Apollon. Apollon, un jour, se promène au bord de la forêt. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit ? Daphné, dans une plage de lumière, comme ça, magnifique, avec ses longs cheveux, comme ça, à moitié nu, suivi par une myriade de papillons. Et il tombe amoureux, en amour, comme on dirait en provençal. Depuis lors, il ne rêve que d'une chose, c'est de rencontrer Daphné. Mais Daphné, dès qu'elle aperçoit le moindre humain, elle se calte et comme ça, elle disparaît dans un dédale de rochers et elle va se cacher dans une grotte et on ne la voit plus. Seulement, Apollon, il commence à être triste. Il commence à dire, tiens, je ne peux pas accéder à cet amour, qu'est-ce que je vais faire et tout. Il est triste. Et Apollon, il avait un ami sur son épaule, c'était le corbeau. Et le corbeau, il est là, il écoute tout ce qu'il lui dit, c'est le vrai ami. Et il lui dit, Apollon, qu'est-ce qui t'arrive ? Apollon, il dit, je suis amoureux de Daphné, et puis je ne peux pas la voir, et tout, parce qu'elle est tellement farouche, et tout. Même un dieu comme moi ne peut pas la voir. Donc, le corbeau va voir les oiseaux, il leur dit, écoutez, si vous laissez Apollon observer, ne serait-ce qu'une fois Daphné, eh bien, il vous apprendra tous des chants d'oiseaux. Parce qu'avant, les chants d'oiseaux n'étaient pas si diversifiés. C'est depuis lors que les oiseaux chantent si bien, d'ailleurs. Les oiseaux sont d'accord. Et Apollon va se cacher derrière la chute d'eau, avant que Daphné n'arrive aussi.
et il attend. Le dos contre la mousse, il attend. Arrive Daphné, comme ça, elle arrive sur le sentier. Elle enlève le lierre qui cache sa belle chevelure, qui tient sa chevelure. Elle enlève les quelques feuilles qui cachent sa nudité. Elle s'étale dans la vasque, comme ça. Elle étale ses longs cheveux sur la mousse irisée de millions de gouttelettes d'eau éclairées par le soleil matinal. Les chants d'oiseaux autour, c'est fabuleux. Et Apollon, il regarde ce spectacle, il est subjugué, Apollon, il n'en peut plus. Au lieu de rester là, d'observer, qu'est-ce qu'il fait? Il sort la tête de la chute d'eau, il dit « Daphné !» Elle est tellement belle. Daphné est complètement apeurée, elle se trouve dans sa nudité. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort de l'eau et elle part en courant. Et Apollon de lui courir derrière. Elle aurait pu le perdre 100 fois, mais elle est déjà conquise. Mais c'était sans compter sur Zeus, le boss. Zeus, tous les matins, même encore, vous savez, il a le grand écran comme ça, il regarde ce qui se passe dans ce monde. Qu'est-ce qui se passe en ce bas monde? Tout d'un coup, tchoum, zoom sur la Sainte-Baume, comme Google Earth. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Alors, au moment où Apollon va se saisir de Daphné, il la transforme en arbre. Et en quel arbre? En laurier. Daphné, l'auréole. Et à partir de là, commence à pousser des branches au bout des bras de Daphné, elle se transforme en arbre. On dit qu'au cœur de cette forêt, il y a un laurier. On dit qu'un jour, un prince ou un homme viendra délivrer Daphné de ce mauvais sort. Et on dit qu'à chaque endroit où Daphné a posé ses pieds, eh bien, a poussé une Daphné. Donc, vous avez vu tout ce qu'on a vu là en venant, hein.
Allez Pierre-Louis, à toi.
Ok, donc moi déjà c'est Paul-Louis. Hein, déjà, je voudrais mettre ça, que ça soit clair déjà. Donc ensuite, nous sommes montés à la grotte de Marie-Madeleine, une sorte de petit pèlerinage pour cette semaine un peu mouvementée. C'est un lieu de recueil pour avoir une petite pensée pour les personnes que nous avons perdues ou qui nous tiennent à cœur. Voilà, donc pour finir, sur notre escale à la Sainte-Baume, je me vois obligé de vous faire part de notre fabuleuse escale à l'hôtellerie de la Sainte-Baume. Hein ?
Dis-nous en plus.
Vous voulez que j'en dise plus ?
Oui.
Ok, donc tout d'abord, vous vous rappelez, une arrivée très mouvementée. Mmh. En effet, quelqu'un dont on ne citera pas le nom est arrivé, a ouvert la porte qui menait de notre chambre à l'extérieur. Mmh. Et ensuite...
Il faisait combien de degrés, juste? Il faisait combien de degrés?
Ah, il faisait vraiment froid. Hein.
Ouais, c'était pas l'été.
Il gelait. Mmh. Donc ensuite, impossible de pouvoir remettre la porte en place, n'est-ce pas?
Et c'était moi qui dormais à côté, ça?
Ouais, c'est ça, tout à
okay,
fait.
Okay. Ça va, juste.
Donc une petite nuit au froid, c'était sympa.
Ça me rappelait l'Arménie, c'était beau.
C'était pas le pire. Souvenir. Puis aussi au moment du repas, on avait vraiment très faim, vous vous rappelez?
Mmh.
Ok.
Le rosé surtout, ça va, avoue que c'était un bon côté. Quoi.
Ouais. Mmh. Et puis...
On avait très soif.
Ouais, et on était surtout affamés. Et quand on est arrivé à la cantine, dans les assiettes, il y avait quoi? Que des légumes. Voilà.
Moi, que des légumes. Moi, j'étais content, moi.
Ouais, mais c'était le carême, mec. Voilà, c'était sympa.
Le ramadan.
Voilà, ensuite... On est allé à la douche, mais là, bien sûr, on n'a pas été plus surpris que ça d'avoir de l'eau froide. Hein. Ouais, c'est pas vraiment une surprise. C'est la Sainte-Baume, c'est les joies, c'est les joies.
C'est des blagueurs là-bas, les prêtres.
Voilà.
C'est rigolant.
Donc pour clore cette petite journée, direction le lit, mais là encore, mauvais délire, les couvertures en laine de verre. Voilà, une bonne nuit passée à se gratter, c'était sympa.
Donc voilà, on a fini pour la Sainte-Baume, présentée par Pierre-Louis et Alex. Merci beaucoup les gars.
Paul.
Donc, Paul, quoi Paul? Paul, il est ici Paul.
Paul-Louis.
Ah, Paul-Louis. Donc on va directement passer à une personne aussi charismatique, aussi belle que... J'espère aussi compétente que bonne. Donc on va laisser la place à Céline, qui va nous parler de Grand Saint-Jean, avec la rencontre avec Alain Abididol.
Abitbol, c'est pas grave. Donc on est allé au domaine du Grand Saint-Jean pour poursuivre notre parcours sur l'eau. Et on y a été accueilli par Alain Abitbol, directeur technique du Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, qui nous a présenté le domaine. Il nous a même fait plonger dans les réseaux souterrains.
Ouais.
Oh.
Vous êtes belle.
Merci. Et donc chaque année, on se pose la question toujours de comment investir ce lieu naturel. Mmh. Et cette année, ils doivent trouver plein de solutions techniques pour la présentation d'Assise et Galatée, car la mise en scène de Saburo Teshigawara doit s'intégrer dans le paysage et dans l'environnement.
C'est un plan de name.
Ouais, c'est ça. C'est un plan de name.
Ils ont été hard avec le nom là. Mmh. Et donc tout de suite, on entend Emmanuel Tourine, qui est responsable du service socio-artistique, qui nous raconte Assis et Galatée, et Alain Bibol qui nous présente le Grand Saint-Jean.
Assis et Galatée, une histoire d'amour entre Assis et Galatée, une histoire passionnelle.
Un petit peu comme Daphné et c'était qui, Apollon, voilà. Mais le cyclope, lui, est amoureux de Galatée et ne le voit pas du même œil.
Bien, Céline, si bien.
Et donc il décide, je vais aller vite, hein. Il décide avec une pierre d'écraser l'amoureux de Galatée. Et Galatée, effondrée de chagrin, décide, elle, que son amour restera éternel en transformant son amour en eau et en rivière. Et donc ça, c'est la fin de l'opéra. Donc, cet été, donc, ce spectacle, cet opéra va être donné en représentation. C'est un chorégraphe japonais, Saburo Teshigawara, qui fait cette mise en scène. Oui, à un moment particulier où l'eau a quand même joué un rôle particulier au Japon cette année. Et ça va être une mise en scène extrêmement poétique et qui a, comme lui, Saburo Teshigawara, il a voulu complètement utiliser le site naturel dans la mise en scène et comme décor, comme, faisant vraiment partie du spectacle. Donc il y a un lieu de spectacle qui est un lieu avec un environnement naturel très riche et qui est exploité dans les représentations artistiques. Mais il y a un autre enjeu lié à cet endroit-là, c'est qu'en fait, je vous ai dit qu'il y avait des canaux d'irrigation dans tout le parc, mais qui n'ont pas été entretenus. Donc l'eau déborde et ça a fait des infiltrations dans tous les sols. Et du coup, le sol n'est pas est mouvant, on va dire. Et donc cette bastide que vous voyez derrière, qui est censée être utilisée maintenant comme lieu artistique, lieu de spectacle et lieu culturel, est en train de s'effondrer du fait des infiltrations d'eau. Nous découvrons une nouvelle problématique liée à l'eau, et qui va bien avec un chorégraphe japonais d'ailleurs cette année, c'est que l'eau peut être destructrice.
Ici, c'est une implantation, pour présenter en général, une implantation qui est très très ancienne. On sait que depuis l'Antiquité, le site est occupé. Une tribu gauloise qui s'appelait les Saliens faisait le commerce du sel entre l'étang de Berre, où on ramassait le sel, et les Alpes, où on manquait cruellement de sel. Et donc ici, c'était une des implantations et une des étapes sur cette route du sel. Qui permettait le commerce du sel, enfin, qui était pratiqué par les Gaulois. Donc quand on fait des vues aériennes de la prairie, par exemple, on voit qu'il y a des implantations, on voit qu'il y a des traces d'implantations. Il y a probablement eu des maisons, enfin un village, ou en tout cas une implantation, qui date au moins du début de notre ère et probablement même avant, puisqu'il y a même on a même retrouvé des éléments beaucoup plus anciens ici. Donc ce site, il existe, il est occupé par la population locale depuis très très longtemps, parce qu'il y a une source et que cette source, elle coule depuis plus de 2000 ans et probablement davantage, sans jamais être à sec. Donc c'est un point d'eau qui était essentiel pour l'implantation. Parce que l'image que vous avez aujourd'hui de cette région, du plateau de Puy-Ricard et de la Provence, c'est une image de paysage assez vert. Il faut savoir que c'est un endroit qui est extrêmement sec naturellement, dans lequel il n'y a pas du tout d'eau. C'est une terre qui était très aride, où les gens arrivaient à peine à survivre. C'est une terre à moutons. C'est une terre où on faisait pas d'élevage autre chose que les moutons, puisque ça ne pouvait nourrir que ce type d'animaux. Et la culture était très très peu développée. C'est très vert aujourd'hui comme ça. Vous savez pourquoi? À part la pluie d'hier ou d'avant-hier. Il y a de l'eau dans le sous-sol, oui, ça c'est juste. C'est irrigué par des canaux. Effectivement, il y a eu un travail d'irrigation énorme qui a été fait. Le canal du Verdon d'abord, puis le canal de Provence. Et puis le sous-sol du plateau de Puy-Ricard. Et il y a des nappes phréatiques, il y a beaucoup d'eau. Et donc il y a des forages qui ont été faits à une époque plus récente. Mais la campagne est très très verte ici parce qu'elle est irriguée, elle est arrosée, on peut arroser énormément. Alors que ce n'était pas le cas il y a deux siècles ou trois siècles. Donc encore plus quand on remonte davantage dans le temps. Donc l'implantation ici, elle est liée beaucoup à la présence de cette source. Et on va voir en se dirigeant vers la cour du château qu'il y a eu une partie d'un château du Moyen-Âge qui a été construit ici, qui a brûlé, qui a été détruit, qui a été remplacé par le château qui est là. Et puis d'autres aménagements de paysages qui sont liés à l'histoire de cet endroit, qui est plutôt intéressant.
Riche. Et vous remarquez que tous les lieux où on est allé, où la présence de l'eau est très forte, où il y a une source, où il y a toujours, on a toujours justement une longueur d'histoire, enfin une grande longueur d'histoire, parce que forcément même... Dans l'état ancien, les personnes qui devaient vivre sur un lieu se rapprochaient forcément d'une source d'eau. Quoi.
Donc tout de suite, on va laisser place à Fabien André. André ou Fabien aujourd'hui ?
André,
dal signalta. André. Donc André, je vous laisse la place pour vous nous expliquer. C'est même pas écrit de quoi vous avez parlé.
Hélène Gazelle.
Ouais.
C'est le jardin d'Armand.
Personnage très charismatique des quartiers nord de Marseille. Allez, André, à vous la parole.
Je t'écoute. Partons à la rencontre du mémoire vivant des quartiers nord de Marseille. Hélène Gazelle, qui nous raconte son passé, sa jeunesse, au milieu des sources du bassin de Sillon. Nous avons été charmés par cette vieille dame qui nous a transportés dans un paysage pas si éloigné. Écoutons-la.
Voilà. Et puis il y en a une autre de l'autre côté. Chaque fois qu'il y avait donc l'eau passait comme ça avec un système de voilà. Je sais pas exact. Je comprends pas bien comment ça pouvait fonctionner.
Bonjour
à tout le monde.
Bonjour madame.
Ça va ?
Bonjour. Ça va bien ?
Bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Chanté. Madame.
Jeune homme.
Bonjour.
Eh bien,
vous allez demain.
C'est pas bon cette jeunesse là. Bonjour. Alors avant, en partant du passage à niveau que vous passez, que vous connaissez, qui a la voie ferrée.
Là, on l'a passé avec le minibus tout à l'heure.
Ben, jusqu'en haut, c'était que de la verdure, de la colline avec des petits pins comme là. Là, vous voyez, en face de moi, là, il n'y avait pas le mamelon. Ça a été de la terre rapportée, ça. Là, derrière. Quand vous allez sortir, vous le voyez, cette butte. Cette butte, elle me gonflait. Et pourtant, j'avais une vue merveilleuse avant. Et là, j'ai la butte. Bon.
Et
c'est comme ça.
Alors, les sources.
Sources, il y en avait. En bas, ma mère, elle en avait une d'ailleurs, une très belle source. On mettait les bidons de lait à rafraîchir. Et à Foresta, on appelait ça le marquis. Parce qu'il y avait un. Il faudra que je vous sorte les photos. Un grand château, tout blanc, avec deux tourelles sur le côté. Et il y avait un marquis, le marquis de Foresta. Il nous laissait la permission d'aller dans la Pinède. Avec Sœur Lodi, on allait au patronage. Et Sœur Lodi, elle nous faisait monter là où il y a le creux maintenant. Et on allait sous les pins du marquis de Foresta. Le pin, il était comme une autre. Mais pour nous, c'était un honneur d'aller dans les pins. Nous, là, derrière la traverse des amoureux, il y avait un torrent. J'en avais peur quand j'étais petite, tellement qu'il faisait du bruit. Il sortait derrière le mur de la campagne Glorious et
juste
les Tuileries,
derrière
là, un bruit formidable, là derrière la maison. Et bien, que vous le croyez ou non, on avait mis les anciens qui travaillaient aux Tuileries d'ailleurs, ils avaient mis des grosses pierres pour mettre le pied pour ne pas se tremper quand ils voulaient couper, parce que cette traverse, elle aboutit à Chassignon, là où vous le savez, elle a coulé toute l'année, tout le temps.
Enfin, ça ne vous déçoit pas un peu de,
de voir tous ces HLM qui dans
beaucoup. Vous savez, le soir, vous voyez où il y a le laurier là.
Oui, oui.
Le soir, je ferme et c'est joli si vous voulez d'un côté. Et c'est automatique. Je m'arrête et je regarde. Alors, c'est tout illuminé. Alors mes petits me disent « Oh man, c'est beau, arrête, va !» Oui, ils trouvent que c'est beau parce que ça fait un peu la crèche, vous voyez. Oui, ça fait une crèche, et oui, tout, la rue qui monte avec les lumières et tout. Mais moi, je préférais quand il y avait les pins et les arbres, et... oui, oui. Mais après, dans la, vous savez, dans la terre, il n'y a qu'une loi, que tu sois de Marseille ou de Camargue, dans la terre, elle même pas, elle.
Il n'y a pas besoin de moi.
Tout le monde est égal, là, tout le monde, si tu la respectes, elle te respecte, je me comprends. Avec les gens, je parle, je dis la terre, mais enfin, les gens qui avaient.
Donc, merci beaucoup André pour nous avoir parlé de ces personnages si charismatiques. Très sympa, on a été vraiment touchés par cette visite. Donc, tout de suite, on va laisser place à Émilie. Vous êtes trompée, Émilie, c'est un Y, s'il vous plaît. Donc, Émilie avec un Y qui va nous parler de la gestion de l'eau salée en Camargue. Donc, on est en quartier nord, on repart en Camargue. On est des nomades, en fait. On est une classe assez dynamique. Sauf quand on... Si on est penché, on est dynamique, on se lance, on voyage, on se transporte. Et là, on se transporte jusqu'en Camargue. Et Émilie qui va nous parler de la gestion de l'eau salée.
Exactement. Allez-y. Pendant notre voyage, on a passé 2 jours en Camargue, la journée dans les champs ou au bord du Rhône. Et le soir, dans un gîte très agréable chez Brenda. Mais vous n'en saurez pas plus, car ce qui se passe en Camargue reste en Camargue.
Excitant.
Nous avons rencontré Alain Dervieux, ingénieur au CNRS, qui va nous expliquer le fonctionnement du circuit de l'eau douce et celui de l'eau salée dans ce milieu particulier. Et ensuite, Xavier Guillot, directeur du domaine Méjane, qui va nous présenter son exploitation agricole, les avantages et les inconvénients d'une culture de riz en Camargue.
C'est génial. Tiens la marche.
C'est le son de la nature.
C'est le son de la dame nature qui veut nous exprimer ce qu'elle ressent.
Ah. J'aurais que ça fait.
Il y a des mouettes.
Par là. S'il vous plaît.
Non, trop bien.
Regardez le Vacarès, le coucher de soleil sur Vacarès.
Ouais, bon, d'accord.
Avec un vol de gavion. Mmh.
C'est bien, c'est bien. Prends des photos. Céline,
alors, on se concentre.
Vous avez peut-être entendu dire que le niveau de la mer augmente depuis pas mal d'années. Ici, il augmente d'à peu près 2,5 à 3 mm par an. Ça veut dire qu'en 10 ans, ça fait 2,5 cm. Oui, mais bon, tu imagines ce que ça fait en 100 ans ?
Oui.
Voilà. Et c'est le problème. Le problème qui en découle, c'est que on essaie de gérer le niveau des étangs pour que les riverains ne soient pas trop embêtés et que s'il pleut beaucoup, on n'ait pas trop d'inondations, justement, des riverains. Parce que la route que vous avez vue, là, elle n'est pas à 50 cm. Donc quand le niveau de l'étang est à 50, ce qui est arrivé en février 2009, ben, l'eau, elle est sur la route. Le problème actuellement, c'est qu'avec cette élévation du niveau de la mer, le niveau moyen de la mer au droit de la Camargue, il est à plus 14 par rapport au 0 NGF de 1969. Donc, en moyenne, les étangs, ils sont 10 cm en dessous du niveau de la mer. S'ils sont 10 cm en dessous de la mer, ça veut dire que quand on veut se faire sortir de l'eau, ben on ne peut pas. On ne peut que si les conditions climatiques le permettent, c'est-à-dire... Oui, voilà. Par fort Mistral.
Mistral vent du nord.
Là, oui.
Voilà. Ça tend à baisser le niveau de la mer. Ouais. Ça pousse les étangs vers le sud. Donc il peut y avoir des décotes jusqu'à 80 cm. C'est-à-dire le fait que le vent souffle fort, ça fait monter le niveau au sud, 80 cm de plus qu'au nord. Et là, on peut sortir de l'eau. Autre possibilité, bien sûr, c'est quand la mer n'est pas trop haute et qu'il a énormément plu. et qu'il y a une décote positive entre les étangs et la mer. Voilà. C'est le problème actuel de la Camargue.
On va... Il y a encore des questions? Non? Plus de questions?
L'eau douce permet de dessaler les terres et de faire pousser de l'herbe, de la végétation pour l'élevage. Voilà. Mais après, si on se positionne au niveau de l'environnement, il y a certains écologistes qui disent qu'on déstabilise l'écosystème. Quand on apporte trop d'eau douce, on déstabilise l'écosystème camarguais. Et on n'a plus ce paysage de plantes halophiles, ces plantes qui poussent dans le sel. La salicorne, la sansuire, le tamaris, voilà. Alors il faut arriver à trouver le bon équilibre. La Camargue est un milieu fragile et toute la Camargue, tout l'environnement tourne autour de l'eau. Voilà.
Et M. Dervieux nous disait hier, Alain Dervieux nous disait hier un peu que la Camargue, il y avait un risque parce que c'est l'eau. Il y a trop d'eau maintenant en Camargue.
Le problème aujourd'hui, c'est que l'eau, en général, on a du mal à la gérer. La mer y a monté. Avant, l'étang du Vacarès que vous avez en face s'écoulait gravitairement, c'est-à-dire quand la mer était basse, l'étang partait dans la mer. Aujourd'hui, malheureusement, la mer est souvent plus haute que l'étang. Il y a très peu de périodes où la mer est plus basse que l'étang peut s'écouler.
Grâce au Mistral, ça permettait
de... Grâce au Mistral. Mais bon, aujourd'hui, enfin, l'année dernière, ça n'a pas été trop le cas. Je crois qu'il y a eu 5 ou 6 jours où ça a pu s'écouler. Avant, il y avait un mois, il y avait 2 mois, 3 mois où le Vacarès pouvait s'écouler. Voilà. Le gros problème, c'est ça, c'est la gestion de l'eau en Camargue qui devient plus ou moins artificielle, qu'on a du mal à gérer. Voilà. Et je pense que demain, il faudra faire une super digue en bordure de mer. Parce que la mer montant, il paraît qu'en 2036, on va être noyé par la mer. Le jour et l'heure, je ne la connais pas, mais c'est 2036. Il va falloir faire une super digue, comme ont fait les Hollandais chez eux. Et après, mettre des pompes pour pouvoir drainer les milieux naturels qui n'étaient pas drainés avant. Alors là, c'est à l'étude en ce moment. Ça chagrine pas mal de monde, mais bon, M. Dervieux est le spécialiste de l'eau. Il a dû vous le dire, c'est le souci. Tout ce qui tourne autour de la Camargue, toute la problématique vient de l'eau. Et la chance que j'ai, moi, sur le domaine, c'est que mon père, dans les années 70, quand il est arrivé, il a mis au point un système de drainage et d'irrigation indépendant. Ça fait qu'on fait ce qu'on veut sur mes gens. On n'est pas tributaire de Paul, de Jacques ou d'une association. Voilà.
De l'ASA ou quoi ?
Non, on est indépendant. C'est le gros, gros avantage. On peut faire ce qu'on veut. Voilà. Et notre souci, comme on est en bordure étant du Vacarès, c'est que le Vacarès monte de plus en plus et c'est de se protéger du Vacarès. Alors en bordure étant du Vacarès, on a fait des digues, maintenant qu'ils ne suffisent plus, et on fait des gros ballots de paille de riz de 400 kg qu'on essaie de mettre en bordure de l'étang pour se protéger de l'étang. Voilà.
Alors donc là on continue, merci beaucoup Émilie. Donc on va laisser place à deux personnages charismatiques. Axel, franc marseillais. Il y a pas. Non, la mama elle est à la fin. La mama Delka.
Je croyais que c'était Rasmia d'abord.
Non, alors là ça va être le dilemme. Parce que entre Axel le l'hyperactif furieux et Jérémy, ça va être cool.
J'ai mis le casque de cellule.
Donc Axel et Jérémy à vous. Accrochez-vous parce que Jérémy il envoie la patate. Hein. Jérémy c'est du lourd.
À vous Axel.
Donc pour continuer notre périple à travers la Provence, on s'est rendu aux portes du Vaucluse, à Pérol plus précisément, pour rencontrer Rémi Muller, gardien du canal de Pérol, qui nous a expliqué toutes les facettes et les difficultés de son métier.
Quel accent.
L'eau est très importante et complexe à gérer dans cette région, notamment pour les agriculteurs. Ils utilisent la technique de l'irrigation gravitaire qui existe depuis 1759 et qui nécessite un réseau de canaux pour acheminer l'eau jusqu'aux parcelles cultivées. Puis, suivant la demande des agriculteurs, on inonde les parcelles par un système de martelière selon les besoins. Mmh. Tous les champs sont inclinés pour que l'eau puisse s'écouler, ce qui nous donne un paysage tout en cours. On écoute Rémi Muller.
Rémi Muller, c'est à vous.
Thank you.
passe sur le canal EDF. Donc, le canal EDF est juste derrière. On a une première grande vanne, donc c'est la tige qu'on voit passer. Là, on va passer à côté après. On vient simplement ouvrir ou fermer l'ouverture pour le canal EDF. Ce qu'on appelle la vanne de garde. Juste derrière cette vanne, il va y avoir une deuxième ouverture sur laquelle on va trouver la vanne qui est la vanne jaune qu'on voit là-bas. C'est ce qu'on appelle une vanne avio. Une vanne avec une sorte de pelle en losange, hein, avec un V comme ça, et un flotteur de l'autre côté. C'est-à-dire qu'au plus le bassin qui se trouve ici est rempli, au plus la vanne va flotter et venir fermer l'ouverture. Et au contraire, au moins il y a d'eau ici, au plus la vanne se soulève et laisse passer de l'eau. Ça, c'est un système de vanne qui est très important et qui permet de limiter un maximum les interventions et de se mettre en sécurité. À ça, donc là, ce sont ce qu'on appelle les modules à masque. C'est-à-dire qu'ils sont calibrés à partir d'un certain niveau d'eau. On sait exactement le débit d'eau qui passe.
Ah, mais ça s'est ouvert, j'avais même pas vu.
L'irrigation gravitaire, c'est pas quelque chose d'archaïque. C'est quelque chose qui, plus on évolue, plus on va vers des systèmes d'irrigation qui n'utilisent pas d'énergie, peu d'énergie, qui consomment peu d'énergie. Par exemple, pour mettre un réseau sous pression, ça, on va utiliser des énormes pompes électriques et qui consomment énormément d'électricité, énormément d'énergie, alors qu'en gravitaire, on n'a pas du tout ce besoin-là. Voilà. Et donc, plus on arrive vers des solutions durables et aussi qui économiquement coûtent moins cher, plus le gravitaire devient intéressant. Alors, il y a aussi que historiquement, les agriculteurs ont toujours connu maintenant l'irrigation gravitaire. Donc, il y a des règles qui se connaissent, qui sont une application simple de ce qu'ils ont toujours connu. C'est vrai que si on devait recréer un réseau gravitaire et appliquer les règles, faire accepter à chacun de faire passer les réseaux chez lui, ce serait très compliqué. Voilà. Mais on est sur des territoires qui, depuis 150, 200 ans, sont irrigués de cette façon-là. Tout le monde a toujours vu un ruisseau passer proche de chez sa maison. Et c'est donc, fait partie du petit patrimoine.
L'arrosage gravitaire, c'est une véritable technique. L'arrosage gravitaire, c'est 60% de la récolte. Il ne faut pas que le paysan se trompe. C'est très important, l'arrosage, pour avoir une bonne récolte, pour avoir une bonne production. Axel. L'importance de l'eau.
Donc, ensuite, on va enchaîner avec... ça va, alors. Avec Jérémy. Alors.
L'après-midi, on est allé sur l'exploitation agricole de Philippe Robert, président du canal de Pérols. Lors de cette rencontre, il nous évoqua les problèmes techniques de l'arrosage moderne et sa passion pour son métier d'agriculteur. On va écouter maintenant Bernard Le Saint qui nous raconte son travail photographique qu'il mène sur les agriculteurs du Pays d'Aix, notamment Philippe Robert. On remarque beaucoup de passion dans leurs propos.
Beaucoup de passion dans les tiens. Merci beaucoup Jérémy.
De rien, de rien.
On y va.
Habitant un petit village agricole, le Puy Sainte-Réparade, j'ai eu la chance d'être tout de suite dans le réseau, et notamment avec la variété qu'on a sur notre département et sur le Pays d'Aix. Je suis parti à la rencontre d'une richesse et d'une diversité insoupçonnable. Ouais. Moi, je travaille essentiellement ce qu'on appelle sur des faits de société. L'idée est plutôt de témoigner, c'est un témoignage et c'est une rencontre avec des agriculteurs au sens large. Donc agriculteur, c'est éleveur, c'est tout ce que je vous ai décrit, tout ce qui touche au métier de l'agriculture et de l'élevage. Et on n'a pas de propos de dire elle est en crise ou il y a une bonne agriculture et une mauvaise, pas du tout. C'est un hommage aux hommes, au travail, c'est un hommage à un métier qui n'est absolument pas connu, d'ailleurs. Donc, je travaille plutôt sur les coulisses de ce métier.
C'est très médiatisé maintenant.
Moi, je voulais savoir pourquoi vous avez choisi le noir et blanc.
En fait, il y a deux écritures. Il y a une écriture en couleur, il y a une écriture en noir et blanc. Moi, dans l'histoire de la photographie, il y a les deux. J'ai privilégié le noir et blanc parce que j'ai l'impression que dans le noir et blanc, on peut arriver à un autre type d'évocation qui est peut-être moins anecdotique, peut-être. Et que moi, je suis dans le registre, en gros, aussi de l'intime. Je crois que c'est la relation à l'intime, la relation à l'anecdote différemment. Et je pense que le noir et blanc est... Et puis, on est tellement submergé de couleurs, mais en permanence, que tout d'un coup, ça change la vision. On va sur d'autres types d'émotions qu'avec la couleur. Et je voulais juste faire une remarque par rapport à une chose que toute ma vie, je le pense, hein, par rapport aux agriculteurs. Ça n'existe pas, c'est comme les jeunes. C'est les mondes, c'est pour ça qu'on appelle les mondes agricoles. Même pour vous, quand vous allez apprendre plus tard des travaux, des projets, où elle est à la rencontre, dites-vous bien, c'est jamais monolithique. Et on a cette même diversité dans les mondes agricoles.
Sur le métier d'agriculteur, moi ce que j'ai aimé là, c'est la première fois que je vois les photos, c'est la diversité, il l'a dit, c'est-à-dire que c'est vrai que pour une même région, il y a plein d'exploitations différentes, même pour des cultures semblables. C'est vrai qu'il y a des, malgré tout, que le fait que vous habitiez sur place, par exemple, qu'il y ait les parents qui sont encore dans l'exploitation ou qu'il n'y ait qu'une génération, c'est tous des petits détails qui font que la vie au quotidien des agriculteurs peut être assez différente. Après, c'est vrai qu'il y a les dimensions d'exploitation, mais le maître mot, c'est diversité. Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est l'alternance du manuel et d'autres activités. Donc, on voit très bien le manuel pour le ramassage des légumes, on voit des gens sur des tracteurs. Mais en fait, même nous, où c'est plutôt des grandes cultures, c'est plutôt mécanisé, en fait, on est tout le temps en train de passer de... hier, par exemple, le rail sur lequel tu mets les pieds, là, on était en train de faire du ciment pour sceller ce rail. Après, on fait un peu de tracteur, je suis tombé en panne, donc il a fallu que je téléphone et que j'aille bricoler mes fils électriques pour que le tracteur remarche. Après demain, j'ai une réunion toute la journée. Je suis tout le temps en train d'alterner. Aujourd'hui, on vous reçoit. Souvent, le métier d'agriculteur, ce qui est bien, c'est que c'est comme beaucoup de métiers, mais le fait qu'on puisse toucher du concret, c'est-à-dire travailler avec ses mains et en même temps avoir une activité intellectuelle, et puis moi ça me plaît beaucoup, quoi. Si je peux me permettre, il manque un peu d'eau dans la série de photos.
Belle transition.
Parce qu'il y aurait des photos d'arrosage à l'arrêt ou de choses qui...
L'arrosage est important.
C'est important. Bon, pour nous, c'est très important. Moi, si je suis président de l'association des arrosants, c'est parce qu'on a le soleil, on a l'eau. Bon, pour peu qu'on ait les terres qui aillent avec, on peut faire tout ce qu'on veut, quoi. Moi, je suis donc l'élu des propriétaires. Et en général, c'est plutôt des agriculteurs qui composent ce qu'on appelle le conseil syndical, quoi, ce qui est les gens qui prennent les décisions. Si vous arrosez une culture, que ce soit à l'arrêt ou par DG, en fait, la consommation de la plante, ça sera toujours à peu près la même si elle est arrosée. Donc en fait, elle pompe toujours la même quantité d'eau, et le reste, c'est ou de l'évaporation, alors il y a plutôt plus d'évaporation quand on arrose avec DG, ou de l'eau qui ne fait que passer, qui retourne après dans la Durance, ou alors de l'eau qui s'infiltre et qui va dans la nappe. Donc globalement, c'est vrai qu'on peut dire que l'arrosage à l'arrêt, ça prend énormément d'eau, mais c'est pas de l'eau qui est perdue, quoi, en fait. C'est de l'eau qui se retrouve dans la rivière ou dans la nappe d'accompagnement. Donc si jamais un jour on arrête, qu'on passait tout en aspersion, tout en réseau tuyaux étanche, il y aurait un gros problème parce qu'il y a... Ouais. C'est-à-dire qu'il y a toutes les communes, beaucoup de communes qui pompent leur eau potable, plus des particuliers. Et du coup, il y aurait un gros problème, quoi. Il faudrait aussi réalimenter. Donc, disons que c'est un système global, il ne faut pas voir par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire l'eau que va prélever l'agriculture pour arroser ses cultures. Il faut le voir par rapport aux effets secondaires qu'il peut y avoir.
Merci Jérémy, tu nous as aiguillé. Donc maintenant, laissez place à la mama. Alors Rasmia, nous t'écoutons pour la conclusion, pour le résumé de cette semaine. Question, Rasmia, devant le micro. Rasmia, envoie la conclusion. À toi Rasmia, vas-y, on t'écoute. Tu es belle.
Que tu es beau, sûr.
Vas-y, fais tout péter.
Vous me perturbez.
Je te caresse.
Ne sois pas perturbé par un...
Vas-y, envoie Rasmia.
Ok.
Tu veux commencer à parler de tes enfants pour te calmer, non?
Non.
Non.
C'est bon, là, je peux parler?
Que tu
ok,
as
merci.
Nous avons passé une bonne semaine ensemble. On a eu la chance de découvrir l'eau dans ses différents milieux. On a appris à mieux se connaître, même s'il y a eu des moments de tension. Mais avec le bâton de la parole, on a tout réglé. Les entraînements corporels au château d'Avignon et les petites parties de rugby, ce sont des moments forts et inoubliables. Pour moi, c'est le dernier soir qui m'a marqué, car on a fait la fête avec un petit barbecue. Barbecue.
Avec une petite barbecue.
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 Barbecue à la fin.
Oui, barbecue.
Maintenant, il ne nous reste plus pour achever notre périple d'aller voir au Grand Saint-Jean, à Cissé-Galatée. L'opéra de Handel au mois de juillet, au domaine Saint-Jean.
C'est pour résumer. Merci Rasmia d'avoir fait le résumé, la conclusion de cette semaine. On enchaîne tous avec un mot de chaque.
Bon, ordre alphabétique, hein, je commence. Voilà, tu vas être en dernière, Émilie, sois pas deg. Donc je voulais dire que cette semaine, elle a été super et que la Sainte-Baume, c'est une phrase déjà, et que la Sainte-Baume, on la présente mal, mais moi je voudrais dire qu'avec trois personnes, on est quand même allé voir le magnifique lever de soleil qu'il y avait là-bas à 4h du matin, et que c'était quand même magnifique, voilà.
Et on a le droit de dire qu'on était bourré ou même ça c'est censuré?
Non, faut pas le dire.
Bah les profs, les pauvres.
Mais ça, faut pas le dire non plus. Donc chacun un mot sur cette semaine.
Donc faut pas dire que Casajou était bourré non plus.
Non, faut pas dire ça.
C'est bon, mais non de code, appelle le mignon.
Avec modération. Avec modération.
C'est moi.
Non, c'est censuré. Ça, c'est censuré déjà. Son état est censuré.
J'ai pas envie de raconter toute ma vie, mais c'était Jdid.
Quelque chose à rajouter, c'est on voudrait remercier Monsieur Périgueur.
Donc,
on va applaudir les profs avec qui on était. Si vous voulez bien rajouter un petit mot, Monsieur Périgueur.
Monsieur, venez rajouter un mot.
Monsieur. On attend que vous, s'il vous plaît.
Allez, un petit mot.
Parce que sans ces professeurs, rien n'était possible. Sans ces professeurs dynamiques et compétents. Monsieur Périgueur, allez-y, un petit mot. S'il vous plaît, Monsieur
Master. La place du master.
Dans une semaine, on apprend beaucoup de choses et grâce aux élèves. Hein, c'est bien de renverser un peu les choses et qu'enfin les élèves nous apprennent des choses. Quoi. C'est quand même magnifique. À toi, Billy.
C'est un peu ça.
Bravo.
Merci.
Pour une fois, on a appris des trucs au professeur. C'est pas souvent que ça arrive.
Pierre Perdu, il a quand même raison. Il faut remercier Radio Grenouille.
Merci beaucoup.
Radio Grenouille. Roger Sœur.
Merci Bertrand.
Qui nous a permis de mettre en radio notre.
Merci Aline.
Emmanuel
aussi. Ouais.
Spécial dédicace à Manu.
Ouais.
Manu. Il y a toutes les personnes qu'on a rencontrées pendant cette semaine.
Ouais.
Il y a tous ceux qui nous ont accueillis.
Et Casajou aussi, nous écoute aussi.
Ouais, bon, allez, on se bonne vacances.
Tu m'as manqué pendant cette semaine.
Dédicace à la classe.
Attends, Alexandre, il parle, attendez. Alexandre, vas-y, dédicace.
Je t'aime, ma chérie.
Mais moi, je voudrais dédicacer à notre classe, à notre lycée, à Grande Bastide, à l'internat, à tous nos profs et aux
dédicaces. Bon, et Axel, il voudrait passer une dédicace aussi à toute l'année qu'on a passée ensemble, que c'était super et tout, voilà. C'était super.
Moi, je passe une dédicace au corps de Céline.
Et moi, je vais passer une dédicace pour Axel. S'il y a une fille qui est intéressée par Axel, qu'elle nous appelle, ok?
Help each man be a better man with the kindness that we give. I know we can make it, I know that we can, I know darn well we can work it out. Yes we can, I know we can, yes we can. Why can't we if we want it? Yes we can. I know we can make it, I know that we can, I know darn well we can work it out. Yes we can, I know we can, yes we can. Why can't we if we want it? Yes we can. We gotta take care of all the children, the little children of the world, 'cause they're our strongest hope for the future, all the little bitty boys and girls. We got to make this land a better land than the world in which we live. We gotta help each man be a better man with the kindness that we give. I know we can make it,
I know that we can,
I know darn well we can work it out.
Yes we can, I know we can, yes we can.
Why can't we live the morning? Yes, we can.
Well, I know we can make it. And I know darn well we can work it out.
Yes, we can. I know we can. Yes, we can. Why can't we if we want it? Yes, we can. We just got to make it, y'all. Is talking about it. We got to take care of our mother. I'm talking about Mother Earth. Clean up all the pollution, y'all. Let's get together now and get to work. I know we can make it. I know that we can. I know darn well we can work it out. Yes, we can. I know we can. Yes, we can. Why can't we if we want it? Yes, we can. I know we can make it, I know that we can. I know darn well we can work it out. Yes, we can, I know we can, yes, we can. Why can't we if we want it? Yes, we can. Get together now. Get together. We got to make this land a better land and the world in which we live. Help each man be a better man with the kindness that we give. I know we can make it. I know that we can. I know darn well we can work it out. Yes, we can. Oh, we can. Yes, we can. Why can't we if we want it? Yes, we can. I know we can make it. I know that we can. I know darn well we can work it out. Yes, we can. I know we can. Yes, we can. Why can't we if we want it? Yes, we can. I know we can make it. Come on, let's just make it, y'all. I know we can make it. We got to help each other make it, y'all. I know that we can. I know we can make it.
Si se puede.